journal des sciences.
Et un journal des sciences à connotation très spatiale cette semaine, puisqu'on commence avec un retour sur l'échec du décollage de la capsule Soyouz il y a une semaine en Russie, en route pour la Station Spatiale Internationale.
Oui, ce qui est rarissime, hein. Historiquement, Soyouz est le lanceur le plus fiable. Pas d'accident, hein, depuis 1983. Les deux astronautes russes et américains en sont sortis sains et saufs par éjection automatique. Alors comme après un crash aérien, une enquête est en cours, les résultats doivent être publiés demain. Mais on a déjà une petite idée de ce qu'il s'est passé, hein, au moment de la séparation du premier et du deuxième étage de la fusée, une panne moteur a fait avorter le vol. Pour le moment, le vaisseau taxi pour l'ISS est donc en quarantaine et cela soulève plusieurs problématiques. La situation n'est pas catastrophique. En revanche, l'avenir de la station, elle, est préoccupante. Jean-François Clairvoy est astronaute. Il nous explique ce que cet accident implique.
Les Russes ne vont pas relancer des astronautes tant que la fusée qui a subi un défaut la semaine dernière n'a pas révélé la cause du problème. Les impacts, c'est que l'équipage qui est là-haut, il a un Soyouz qui les a amenés dans l'espace en juin et qui a une durée de vie limitée en orbite de 200 jours. C'est-à-dire qu'au plus tard, vers la fin décembre, début janvier, l'équipage qui est en haut, en ce moment, doit redescendre. Et s'il redescend avant qu'on ait pu renvoyer à nouveau des astronautes dans la station, c'est-à-dire que la station va fonctionner dans un mode dit inhabité, sans personne à bord. Or, elle n'a pas été conçue pour ça. Il faut quand même savoir que les Russes sont les seuls à transporter l'équipage vers l'ISS, tous les équipages depuis 10 ans, et c'est les seuls qui fournissent la chaloupe de sauvetage capable de ramener l'équipage à tout moment depuis 18 ans qu'elle est habitée en continu. Ce que nous apprend cet accident, la semaine dernière, c'est la même leçon qu'on avait tirée de l'accident de Columbia il y a 15 ans, c'est très important d'avoir deux moyens indépendants d'accès.
Voilà, et comme vous venez de l'entendre, hein, c'est vrai que la NASA a arrêté donc de faire de la navette spatiale depuis l'accident de Columbia, enfin, qui était en 2003, mais enfin depuis 2011 en tout cas, il n'y a plus d'autres moyens, Natacha, de transport vers l'ISS.
Il faut aussi rappeler, hein, que cet accident intervient dans un contexte assez particulier entre la NASA et Roscosmos. Il y a un mois, on a découvert un trou de quelques millimètres dans la paroi du Soyouz à bord de la station. De l'air fuyait tout doucement. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un trou de perceuse depuis l'intérieur de la capsule. Le directeur de l'agence russe avait alors crié au sabotage américain avant que les échanges avec la NASA ne s'apaisent. Alors cette défaillance de décollage et ce trou dont on ne connaît pas l'origine, ce sont deux épisodes distincts, mais ils révèlent une relation aigre-douce entre les États-Unis et la Russie. Éclairage avec Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable, pour les agences spatiales, eh bien de faire en sorte que Soyouz redevienne opérationnel avant cette date butoir, en sorte qu'il y ait un remplacement d'équipage et non pas une station qui resterait inhabitée pendant quelque temps. Et puis, il y a un aspect symbolique, si vous voulez. On est dans un programme qui est quand même en fin de vie. La station spatiale, aujourd'hui, son échéance, c'est 2026, 2028 peut-être, si on étend sa durée de vie. Mais on voit qu'on est dans une phase du programme où il ne faudrait pas grand-chose pour finalement ce programme soit définitivement abandonné. L'espace est aussi le miroir de ce qui se passe sur Terre, d'une certaine manière. On est dans un contexte géopolitique assez bouleversé en ce moment. Le sujet de la dépendance américaine vis-à-vis des Russes, qui existe depuis plusieurs années, concernant le transport d'astronautes, c'est un sujet qui obsède les élus américains, et notamment au Congrès, qui en ont fait presque un cheval de bataille pour affirmer chacun d'entre eux, finalement, une forme de nationalisme américain et de volonté. Et là, c'est très symbolique aussi, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, puisqu'en réalité, ce ne sera pas nécessairement moins coûteux, mais en revanche, ça montrera que l'Amérique revient, d'une certaine manière, comme une grande puissance dans l'espace. Et finalement, il y a cette idée que la Russie a pris un peu les rênes du programme spatial habité américain.
Voilà, et puis puisqu'il n'y a pas que la Russie, les États-Unis et l'Europe dans l'espace, nous parlerons mardi dans la méthode scientifique des ambitions asiatiques, notamment de la Chine et de l'Inde. En bref, la nuit qui vient, en Guyane, le lancement d'Ariane 5 avec à son bord les deux sondes Bepi Colombo dont nous vous parlions il y a 10 jours, après qu'ils vont aller explorer Mercure.
Mercure, la planète la plus mystérieuse de notre système solaire, c'est la plus proche du Soleil, la plus petite mais surtout la moins explorée. Après 20 ans de préparation, Bepi Colombo a donc pour mission de percer ses nombreux mystères. En effet, rendez-vous dans la méthode Mercure, la petite planète qui grimpe.
Et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission tout de suite. deuxième sujet de ce journal de Des Sciences. Cette semaine, c'était la semaine dernière d'ailleurs, des chercheurs chinois ont donné naissance à des souriceaux à partir de deux souris femelles génétiquement modifiées.
Il y avait déjà eu des tentatives en 2004, mais là c'est la première fois que l'expérience est si concluante. Les souriceaux sont en parfaite santé. Cette expérience touche à la question de la parthénogenèse. La parthénogenèse, donc, c'est la reproduction non sexuée. C'est très répandu dans la nature, cela devient très rare chez les vertébrés et cela disparaît complètement chez les mammifères et les oiseaux, à l'exception de la dinde. Cette équipe chinoise cherchait à mieux comprendre pourquoi les mammifères ne peuvent se reproduire que par voie sexuée. Normalement, les mammifères héritent d'une moitié de leur génome de leur mère et de l'autre de leur père. Comment les scientifiques ont-ils transgressé les barrières biologiques mâles femelles? Le généticien Axel Kahn nous explique la méthode.
On a pris un ovocyte et cet ovocyte a été fécondé avec une cellule souche haploïde. Ça veut dire quoi, haploïde? Les cellules de l'organisme ont deux jeux de chromosomes. Elles sont diploïdes, elles ont deux N de chromosomes. Mais les gamètes, les ovocytes des femelles et les spermatozoïdes des mâles n'ont évidemment que N chromosomes. Elles sont haploïdes et c'est la raison pour laquelle quand un spermatozoïde féconde un ovocyte, on a un œuf avec deux N diploïdes et on reconstitue un organisme diploïde. Donc ici, cette équipe chinoise est partie d'une cellule souche haploïde modifiée génétiquement par ce que l'on appelle l'édition de précision des génomes, le système CRISPR-Cas9, dont la méthode scientifique a parlé bien des fois et qui consiste à réécrire des portions de génome. Et en particulier, ce qui a été fait, c'est de corriger les gènes soumis à empreinte, les gènes qui, en général, empêchent la parthénogenèse. C'est très intéressant, d'un point de vue purement fondamental, que ce mécanisme. Et donc, comprendre quels sont les blocages à la parthénogenèse. Mais, effectivement, l'on peut se dire que en soi, au moins la parthénogenèse est transposable aux mammifères humains. Ça, c'est un peu de science-fiction, mais en effet, on peut se poser la question, si jamais on pouvait le faire, que faudrait-il en dire d'un point de vue éthique? C'est une question qui est largement ouverte à discussion.
Et oui, en finir avec la reproduction sexuée, ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Axel Kahn, qui était l'un des premiers parrains de la méthode scientifique et qu'on salue bien évidemment. En bref, maintenant, Claire Giry prend la présidence par intérim de l'INSERM après le départ d'Yves Lévy, Natacha.
Yves Lévy, qui était à la tête de l'INSERM depuis 2014, sa présidence a été très critiquée à partir de 2017, lorsque sa femme Agnès Buzyn est devenue ministre de la Santé, avec tous les risques de conflits d'intérêts que cela comporte. Il vient d'être nommé conseiller d'État extraordinaire auprès de l'Élysée, une nomination qui continue de faire polémique pour les mêmes raisons. L'ancienne directrice générale déléguée Claire Giry le remplace et devient présidente de l'INSERM par intérim. Elle est docteur en biologie moléculaire et cellulaire et l'une des rares femmes pour le moment à diriger un centre de recherche en France.
Et pour sa fin de mission, la sonde spatiale Cassini s'est jetée dans l'atmosphère de Saturne. Elle est passée entre les anneaux et on commence à voir des résultats justement de ces dernières mesures dans la revue Science, Natacha.
Les résultats sont très surprenants. C'est une région qui n'avait jamais été explorée. Cassini a découvert une nouvelle ceinture de radiation qui se forme entre la planète et ses anneaux denses. Cette ceinture contient des protons. Le rayonnement cosmique et les anneaux collaborent pour créer cette ceinture de radiation minuscule, mais très énergétique, nous dit l'étude. On apprend aussi que l'anneau intérieur déverse dans l'atmosphère de Saturne de la matière organique. Méthane, ammoniac, eau, dioxyde de carbone et autres molécules complexes. Donc non, les anneaux de Saturne ne sont pas composés principalement de glace. Il pleut de la matière jusqu'à 5 à 45 tonnes par seconde. Une pluie qui altère la composition chimique de l'atmosphère de la planète.
En bref, toujours lundi, la NASA a annoncé que Hubble, le télescope spatial, avait cessé de fonctionner.
En cause, une panne de gyroscope. Sur les 6, il ne lui en reste plus que 2. Pour le moment, il est en mode veille. Hubble devrait reprendre ses observations ces prochains jours, bien qu'il ne soit plus dans des conditions optimales. Cela fait 28 ans quand même qu'il est en orbite. C'est l'observatoire historique de la NASA et on lui doit les images les plus détaillées du système solaire. L'agence espère le maintenir jusqu'au lancement de son remplaçant, le très puissant James Webb Télescope, prévu pour mars 2021.
Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, les chercheurs en santé publique de l'université de Dartmouth aux États-Unis se sont posés une question essentielle: combien de joints y a-t-il dans les clips de rap?
Ils ont même cherché à quantifier précisément le phénomène. Ils ont donc compté un par un, le nombre de joints dans les clips de hip-hop. Alors joints, mais aussi pipe, chicha, vapote, cigarette, bref, la fumette. En tout, ils ont regardé 1250 clips du Billboard américain entre 2013 et 2017. Résultat, on y fume dans un clip sur deux. Ces dernières années, le placement de produits de marques de cigarettes électroniques fait même un tabac. Et avec un cumul sur YouTube de 49 milliards de vues en 5 ans, cela peut être un problème de santé publique, selon eux, notamment sur le public adolescent. Alors bien qu'on ne soit pas loin de l'annonce publicitaire, l'étude rappelle qu'aucune régulation n'encadre ces clips. L'association Hip Hop Pétard n'est pas prête de partir en fumée.